de l'après-midi, nous avons la joie d'accueillir Thomas Ayret, qui vient de Vendée, c'est ça, voilà. Père de famille et cadre dans une entreprise, qui vient nous partager une question, un peu à travers un livre qu'il a publié au CERF, Vivre en chrétien, qu'est-ce que ? Qu'est-ce que ça veut dire vivre en chrétien aujourd'hui? Et il nous aidera à réfléchir à cette question par le prisme, à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. On la connaît si peu et pourtant elle est si concrète dans nos vies chrétiennes. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble cet après-midi. On va prendre 45 minutes et puis vous aurez le temps de lui poser des questions. Et si vous n'avez pas le temps de poser vos questions, vous le retrouverez au niveau des permanences tout à l'heure à 15h30 où il dédicacera son livre. Voilà, n'hésitez pas à aller le rencontrer là-bas. Merci beaucoup.
Merci ma sœur. Bonjour à tous, je voudrais commencer par un tout petit sondage de savoir qui parmi vous connaît au moins deux ou trois des principes de la doctrine sociale de l'Église. Vous pouvez lever la main. Allez, un petit quart. Et deuxième question, qui parmi vous pense que c'est un bon outil pour des managers ou des hommes politiques? Vous pouvez lever la main. Un petit peu plus. Qui pense que c'est un bon outil pour les mères de famille? Et est-ce que vous m'entendez là, quand je parle comme ça? Ah, si je parle comme ça, un petit peu plus loin? D'accord. Et puis qui pense que c'est un bon outil pour les prêtres? Voilà. Alors on va découvrir ça ensemble. C'est vrai que la doctrine sociale de l'Église, on s'en fait parfois toute une montagne. On a l'impression que c'est très difficile, que c'est réservé à une élite, que c'est compliqué d'accès. Et en fait, c'est ça que je voudrais vous montrer un peu aujourd'hui, c'est que ça répond à des questions vraiment très simples qu'on se pose dans notre vie de tous les jours. Ça répond à la question, ça nous permet en tout cas de réfléchir à des questions de qu'est-ce que je fais quand à une élection à laquelle je dois voter, il n'y a aucun des candidats qui correspond exactement à ce que j'attends d'un candidat qui respecterait bien toutes les valeurs de ma foi. C'est également la question de quand je suis dans un supermarché, que je vois du chocolat solidaire cher et du chocolat pas solidaire moins cher, comment est-ce que je peux aborder ce sujet-là? Ou encore la question de l'argent dans le couple. S'il y a une seule des deux personnes dans le couple qui ramène de l'argent à la maison, comment est-ce qu'on peut aborder ces sujets-là en couple et vivre ça en chrétien? Alors la doctrine sociale de l'Église, elle a commencé à la fin du 19e siècle par une encyclique très connue qui s'appelait De Rerum Novarum. Et puis les papes successifs ont écrit des encycliques. La dernière en date, dimanche dernier, c'était Fratelli Tutti. Et donc il y a eu des encycliques qui nous ont aidés les unes après les autres à découvrir des aspects très concrets de nos vies et à voir ce que ça veut dire que d'être chrétien en famille, au travail, dans l'économie, au supermarché, dans la politique, dans la sauvegarde de la paix, dans la sauvegarde de l'environnement. Donc c'est vraiment des sujets très larges et qui viennent nous rejoindre, nous laïcs en particulier, mais un peu tout le monde, dans des questions concrètes qu'on se pose et qui nous aident à faire le lien entre notre foi, on croit en Jésus, mort, ressuscité, et puis le concret de nos vies. Et pour accéder à ça, à cette doctrine, alors il y a toutes les encycliques qui sont parfois pas faciles d'accès en lecture, c'est des textes parfois un peu difficiles. Et puis en fait, les papes, le magistère, nous ont finalement... on fait baigner toute cette doctrine sociale dans une même lumière et qu'on peut aborder avec les cinq principes de la doctrine sociale de l'Église. Et je vous propose qu'on découvre ça ensemble pour voir comment ça peut mettre un petit peu de lumière dans nos vies. Alors le premier principe, c'est la dignité de la personne humaine. Alors pour nous chrétiens, La dignité de la personne humaine, ça vient tout simplement de l'idée que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et que pour ça, nous sommes tous infiniment dignes d'être aimés. Alors c'est quelque chose dont on a la notion très rapidement en famille, notamment. On sait que dans la famille, on va valoriser la vie dès le début, jusqu'à la fin, à travers des difficultés, des maladies, à travers l'adolescence même, qui est un moment difficile à passer pour les parents parfois. Et on a cette notion en famille que la valeur de la personne ne dépend pas de ce qu'elle apporte, qu'elle ne dépend pas du salaire qu'elle ramène à la maison, qu'elle ne dépend pas de la force qu'elle a toujours. On sait qu'en fin de vie, certaines personnes âgées perdent un peu leur force physique, parfois leur force mentale, et pourtant on se rappelle que la grand-mère reste notre grand-mère. Pareil pour les enfants, dès qu'ils naissent, au début, c'est quand même plus un poids, entre guillemets, ils rapportent rien, ils mangent, il faut des couches, il faut s'occuper d'eux tout le temps. Et pourtant, on voit bien dès le début, même avant la naissance, cette dignité et tout l'amour qu'on a pour eux, et parce qu'ils sont infiniment aimables. Voilà, je crois que c'est vraiment pour ça que l'Église parle beaucoup de famille. Alors souvent, on connaît bien ce que nous dit l'Église sur la famille, mais pourquoi elle commence là-dessus? C'est qu'en fait, c'est dans la famille que naît cette intuition fondamentale et très importante de dignité inaliénable. Voilà, une dignité qu'on perd jamais, y compris quand on fait des grosses bêtises, des délits, des crimes. C'est une des choses qui peut parfois nous choquer en tant que chrétien. C'est par exemple en ligne, dans des débats sur Internet, de voir des mots très agressifs et qui retire cette dignité de personne humaine. Récemment, il y a quelques années, il y a eu un hashtag, un mot-clé sur Internet qui était « balance ton porc », qui était en référence à des personnes qui avaient été coupables de faits de harcèlement sexuel. Et donc l'idée était que chacun puisse balancer ces personnes-là en donnant leur nom et en disant « voilà un porc ». Et en fait, il y a quelque chose de vraiment pas sain là-dedans. Quel que soit ce que la personne a fait, y compris des choses très graves, des délits, des crimes, elle reste toujours faite à l'image et à la ressemblance de Dieu, et donc elle est infiniment aimable. Et donc, voilà, pour nous chrétiens, c'est un chemin qui n'est pas toujours évident, mais c'est un chemin de toujours vouloir voir dans l'autre cette image de Dieu, y compris dans les pires situations. Ça, c'était le premier principe, la dignité de la personne humaine, et c'est vraiment celui qui irrigue toute la doctrine sociale de l'Église. Donc s'il n'y en a qu'un seul à retenir, c'est bien celui-là. Le deuxième principe, c'est le bien commun. Alors le bien commun, c'est toutes les conditions sociales, environnementales, écologiques, financières, humaines, qui permettent à chacun et au groupe, donc à chaque individu, chaque personne et jusqu'à l'humanité, d'aller vers leur pleine perfection. Donc d'aller rechercher cette dignité de la personne humaine en particulier. Alors ça regroupe des choses très, très larges comme la justice, une justice qui fonctionne bien dans un pays, une monnaie stable, même des parcs publics dans lesquels on peut aller jouer avec nos enfants, les faire grandir, avoir un peu de socialité avec nos voisins. Et tout ce qui nous permet de vivre en société et puis de grandir individuellement. Et je crois qu'on a eu un exemple très parlant récemment dans la vie de notre pays, et même de l'humanité, qui était pendant le confinement. Pendant le confinement, on a eu la vision très très claire que certains métiers étaient absolument nécessaires à la survie immédiate de la société. Alors on a parlé des infirmières, on a parlé des médecins, des caissiers dans les supermarchés, des éboueurs, des transporteurs de fonds, des logisticiens, etc. Et on a la notion qui nous est tous venue que ces travaux-là, ces emplois-là, sont nécessaires au bon fonctionnement de la société. Donc pour nous, il est assez évident que ces métiers, ils contribuent au bien commun. Et puis il y a eu les autres métiers. Il y a eu les professeurs qui ont dû arrêter leur travail, ou en tout cas changer les modalités. Ils n'avaient plus les enfants avec eux, du coup ils étaient chez nous, c'est un peu compliqué. Il y a eu les fleuristes qui ont arrêté de pouvoir faire leur travail. Du coup, on ne pouvait plus dire « je t'aime à nos femmes » de cette manière-là. Il y a eu les restaurateurs où pareil, ils sont encore à certains endroits pas en capacité d'exploiter, et donc on n'était plus en mesure d'aller chez eux pour vivre ces moments qu'on avait à vivre avec des enfants. Et tout ça, ça nous a manqué. Ça nous a manqué, et ça c'est le signe que pour nous, ça fait aussi partie de la manière dont on conçoit une société qui fonctionne bien, dont on conçoit une société qui marche bien. Et donc aussi, bien sûr, il contribue au bien commun. Et puis je crois que c'est l'occasion pour nous tous, au-delà de ces quelques métiers que j'ai cités, de réfléchir à quelle est ma contribution dans mon activité au bien commun. Alors pour tous ceux qui sont dans... Il y a sûrement plein d'entre vous qui voient de manière assez évidente ce qu'il en est. Pour ceux où ce n'est pas le cas, vous pouvez par exemple, si vous travaillez dans une entreprise, une organisation, une administration, une association, aller retrouver quels sont les slogans de cette entreprise, les principes directeurs, pour voir un peu ce que ces entreprises ou ces organismes entendent servir. Dans les slogans, il peut y avoir savoir recevoir, c'est savoir offrir, un esprit dans un corps sain, etc. Et tout ça, c'est vraiment ce que l'entreprise entend servir comme bien commun. Un corps sain, des gens qui savent recevoir, etc. Et puis si ce n'est pas toujours clair, je pense qu'il faut en parler entre collègues. C'est important en fait d'en parler entre collègues, même de mettre ces mots-là, quel est le bien commun qu'on est en train de servir dans l'organisation dans laquelle on est. Et un collègue en particulier, c'est le manager. Le manager, c'est vraiment son rôle, de donner du sens au travail des personnes dans son équipe. Et donner du sens, c'est donner le sens du bien commun. C'est quel est le lien entre le bien commun et puis chacune des tâches que je fais faire à chacune des personnes dans mon équipe. Donc si, pour certains d'entre nous, il est difficile de voir quel est le bien commun qu'on sert, en parler à notre manager, et puis si on est en responsabilité managériale, peut-être faire l'exercice d'en parler avec chaque personne dans son équipe. Voilà, un petit aparté, mais qui n'est pas du tout anecdotique, c'est sur les mères de famille. Les mères de famille, elles n'ont peut-être pas une activité professionnelle rémunérée. Néanmoins, elles sont vraiment dans la construction du bien commun. Leur rôle, c'est de contribuer à éduquer leurs enfants et à les faire grandir. On est vraiment dans la promotion de cette dignité dans leurs enfants, et donc elles sont à l'évidence en train de faire un travail, peut-être non rémunéré, mais un travail en vue du bien commun, en vue de la dignité. C'est important parce que on a tendance parfois à pas reconnaître assez ce travail, mais il est vraiment un travail en vue du bien commun. Voilà. Pourquoi on sert le bien commun, et pourquoi je lis le travail au bien commun? C'est dès la Genèse, Dieu a mis Adam sur terre pour embellir et garder le jardin. Il n'a pas mis Adam sur terre en disant va manger tous les fruits, etc., sauf certains. Il a dit il a mis Adam sur terre pour embellir et garder le jardin. Donc c'est vraiment pour faire prospérer ce don de la création que Dieu nous a donné. Et donc voilà, la mère de famille, les fleuristes et tous ces gens-là, et nous tous par nos activités humaines, qu'elles soient rémunérées ou non, en fait on doit chercher à servir ce bien commun. Alors le troisième principe, c'est la destination universelle des biens. C'est un principe qui est un petit peu moins bien connu, qui est l'idée que en fait tous les biens de la terre nous ont été donnés par Dieu pour qu'ils servent à tout le monde et pour qu'ils puissent contribuer à la pleine dignité de tout le monde. Dit un peu différemment, les biens de la terre ont vocation à affluer entre les mains de tous pour que chacun puisse chercher sa pleine dignité. Dit encore un peu différemment, les biens dont nous sommes possesseurs, les biens que je possède, je ne les possède pas juste pour mon intérêt à moi, je le possède en vue du bien commun. Donc il faut considérer que la propriété privée, qui est quelque chose de légitime et que l'Église reconnaît, elle est toujours ordonnée au bien commun. Donc en fait, tâcher de se considérer soi-même, non pas comme un possesseur juste pour moi, mais comme un gestionnaire en vue du bien commun. Voilà. Ça veut dire que les biens, ils ont vocation non pas à être empilés, mais à être utilisés. Et ça, c'est vraiment l'image de la manne au désert. Les Hébreux voient la manne qui arrive et qui leur permet de manger. Moïse leur dit allez tous en prendre selon votre faim, selon ce que vous pouvez manger. Mais par contre, n'en gardez pas. Elle n'est pas là pour être stockée. Et certains le font, elle pourrit, il y a des vers qui l'infectent. Et là, on est vraiment dans ce don de Dieu, ne pas chercher à le thésauriser, mais l'utiliser toujours pour la croissance. C'est une raison, enfin c'est une image qui nous parlera, c'est le gâchis dans les cantines. C'est une image qui me marque toujours, de voir à la sortie des cantines toute la nourriture qui part à la poubelle. C'est vraiment des biens, c'est cette nourriture, qui ne vont pas trouver leur destination universelle, qui ne vont pas pouvoir être utilisés pour faire grandir l'homme et pour construire quelque chose. De la même manière, on a en logistique, j'ai passé quelques temps à travailler en logistique, on a une expression que j'aime beaucoup. Quand une marchandise ne peut pas aller vers son destinataire prévu, parce que l'adresse est fausse, parce que la personne n'est pas disponible pour réceptionner le colis ou parce que la marchandise est cassée, on dit que la marchandise est en souffrance. Voilà. C'est amusant parce qu'on a l'impression que c'est une chose qui souffre. Mais en fait, elle souffre de quoi cette marchandise ? Elle souffre que sa destination ne soit pas connue. Elle souffre que sa destination universelle ne soit pas servie et claire. Et donc, on est vraiment là-dedans dans la destination universelle des biens. Un autre exemple, c'est l'argent dans le couple. Alors, je le citais au début de l'intervention. On vit dans un couple. Quand on essaye de vivre cette destination universelle des biens, on se pose la question, finalement, mon argent, je souhaite qu'il soit utilisé en vue du bien commun. L'argent de mon épouse, je souhaite qu'il soit utilisé en vue du bien commun. Je sais qu'elle va tenter de l'utiliser dans le sens du bien commun. Et du coup, finalement, quel est le sens d'avoir mon argent et son argent ? Je crois que c'est une question sur laquelle les fiancés sont amenés à se positionner dans les contrats de mariage. Comment est-ce qu'on divise les choses ? Est-ce qu'on se dit une seule chair mais deux portefeuilles ? Comment on gère ce sujet-là dans un contexte en plus chrétien où on se dit que le mariage il est indissoluble. Donc voilà, je crois que c'est vraiment une question de destination universelle des biens qui s'offre à chaque couple pour réfléchir comment est-ce que, vu qu'on a la même destination à cet argent, peut-on et comment peut-on le mettre en commun. Et puis un autre exemple, c'est la quête. Finalement, quand on donne de l'argent à la quête ou à une personne dans le besoin, dans la rue ou à une association, on n'attend pas de recevoir quelque chose en contrepartie. Et là, finalement, quand on le fait, on fait quelque chose qui économiquement n'a pas de logique. On donne quelque chose sans rien voir en retour. Et finalement, quand on fait ça, c'est qu'on est dans l'idée que ce bien, cette pièce que je vais donner, cet argent que je vais donner, il a vocation à servir quelque chose de plus grand que juste mon intérêt propre. Il a vocation à servir le bien commun. Et donc la quête, le don, c'est vraiment une démarche de bien commun qu'on fait chacun quand on rentre dans ces gestes-là. Le quatrième principe, c'est la subsidiarité. Ça, c'est l'idée de Jésus qui envoie ses 72 disciples pour aller chasser des démons. Pourquoi envoie-t-il des disciples faire quelque chose qu'ils feront forcément moins bien que lui ? Parce qu'il y en a 72. Il y en a 72, ils vont pouvoir aller partout, ils vont pouvoir évangéliser toute la terre. Et ça, c'est la logique de la subsidiarité, c'est de dire, au lieu que les choses soient toutes faites par le chef, ou le chef de famille, ou le chef d'une entreprise, on profite des forces de chacun, tous les employés de l'entreprise, tous les enfants dans la famille, pour réussir à construire quelque chose de manière plus grande, plus efficace, plus belle, et puis avec peut-être une diversité de points de vue plus riche. Et donc ça, c'est la subsidiarité, l'idée que les décisions et puis les actes doivent se faire le plus près possible du terrain, le plus près possible de ceux qui les appliquent, de ceux qui les subissent, pour être le plus adapté possible et puis pour qu'on réussisse à en faire plus. Finalement, si je prends l'exemple dans la famille de l'enfant qui à un moment dans la vie d'un enfant l'enfant doit apprendre à s'habiller tout seul. Donc ça, je peux vous le dire, c'est vers 3-4 ans, parce que j'ai des enfants qui sont dans cet âge-là. Et il y a un moment où il doit être capable, l'enfant, de choisir lui-même les habits qu'il va mettre. Il y a un moment où il doit être capable de choisir lui-même les habits qui vont être achetés pour lui. Et puis il y a un moment où il va devoir même, beaucoup plus tard, ramener l'argent lui-même pour pouvoir acheter ses habits. Là, on est vraiment dans une démarche de subsidiarité. C'est quand il est capable, l'enfant, de réaliser ce petit geste pour ce bien commun. Alors, une petite partie du bien commun, hein, mais le fait qu'il soit bien habillé. Quand il est capable de faire des gestes, eh ben, faut que les parents lâchent prise et le laissent faire par leur enfant, quitte à ce que le pantalon ne soit pas toujours bien accordé avec la chemise et ce genre de petits problèmes qui arrivent. Et donc on est vraiment dans cette logique de subsidiarité tout au long de l'éducation des enfants, mais ça marche bien évidemment également dans une entreprise avec l'autonomie croissante des employés auxquels beaucoup d'entreprises aspirent. Voilà. Et puis je crois que si on parle de subsidiarité, on a eu un moment très fort dans la vie de notre pays récemment qui était les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est un mouvement de subsidiarité. D'abord, c'est né dans la subsidiarité. Il n'y a pas un chef qui s'est dit « je vais mobiliser toutes mes troupes, on va aller sur tous les ronds-points de France et puis on va présenter des doléances ». C'est vraiment quelque chose qui est né du terrain, de chaque personne qui était en attente de quelque chose. Et donc c'est vraiment né dans la subsidiarité. Et puis toutes leurs demandes, c'était des demandes de subsidiarité. On veut décider nous-mêmes des taxes sur le carburant, on veut décider nous-mêmes de la vitesse à laquelle on va sur les routes, on veut décider nous-mêmes quels sont les vaccins qu'on va mettre, qu'on va inoculer à nos enfants. On veut un référendum d'initiative citoyenne, qui est là aussi une demande de subsidiarité. Et je crois que toutes ces demandes, la subsidiarité, c'est une demande très très légitime quand elle est orientée au bien commun. Alors quand on en vient à bâcher le radar, quand on bâche un radar, est-ce qu'on est vraiment dans la construction du bien commun? Sans doute pas. Dans ce cas-là, la subsidiarité, elle est un peu fausse. Voilà. La subsidiarité est toujours à relier au bien commun. Et puis le dernier principe, c'est le principe de la solidarité. Alors la solidarité, c'est pas une petite émotion quand quelqu'un éprouve une difficulté, quelqu'un proche de nous éprouve une difficulté, c'est accepter de donner de soi-même pour l'autre. C'est accepter de mourir un peu à soi pour l'autre. Alors l'image pour nous, elle est claire, hein, chrétien, c'est le Christ sur la croix. Le Christ qui a accepté de mourir et de ressusciter pour nous sauver du péché. Donc c'est vraiment accepter de donner, c'est un acte fort, la solidarité, c'est pas juste une petite émotion. C'est un acte qui est, la solidarité, c'est un principe qui est souvent rappelé par l'Église dans le contexte de l'environnement. Alors je prends un exemple très très concret, au travail, un collègue qui fait une boulette de papier, qui l'envoie à la poubelle, qui loupe la boulette de papier se retrouve par terre. Est-ce que j'accepte, en passant à côté de cette poubelle, de faire le petit effort, ça me demande un tout petit peu d'énergie, pas beaucoup mais un petit peu quand même, ça demande peut-être un petit peu d'humilité, de ramasser la boulette à la place de ce collègue pour que tout le monde ait un cadre de travail agréable? Ça vaut un tout petit niveau comme ça, ça vaut un niveau beaucoup plus grand. Est-ce qu'on accepte que nos usines soient réglementées de manière plus dure que dans d'autres pays, de manière à protéger l'environnement, qui est l'environnement dont toute la Terre profite? Ça fait un petit coût supplémentaire pour nos usines, parfois du coup sur nos produits, parfois on est peut-être un peu moins compétitif que d'autres pays à cause de ça. Est-ce que j'accepte de mourir un peu à moi pour l'autre? Est-ce que je l'accepte à titre individuel? Est-ce qu'on l'accepte en tant que pays? Voilà. Voilà, donc les cinq principes: dignité de la personne humaine, le bien commun, la destination universelle des biens, la subsidiarité et la solidarité. Alors l'Église, elle nous dit bien pourquoi ça s'appelle la doctrine sociale de l'Église. C'est qu'en fait, ces principes, l'Église nous dit que notre vie dépend de celle des autres. Que notre vie dépend de celle des gens qui nous entourent, notre vie spirituelle en particulier. Quand je m'élève vers Dieu, ça va toucher les autres. Quand plusieurs personnes autour de moi s'élèvent, ça va me toucher. Ça va me permettre de progresser, ça va me permettre de voir des exemples, de recopier, etc. L'inverse est vrai. Quand je fais un péché, ça touche les autres aussi. Ça les incite au péché. Ça, c'est en allant à l'extrême, c'est ce que l'Église appelle des structures de péché. Les structures de péché, c'est dans un certain endroit, un certain type de péché qui tend à se reproduire. Alors, à l'échelle d'une société, on peut penser, heureusement, on est un peu protégé contre ça en France, mais on a d'autres exemples en tête. À l'échelle d'une société, ça peut être la corruption. La corruption, c'est une structure de péché, ça tend à se reproduire. Quand c'est un endroit, ça se reproduit, les gens peuvent reproduire. À l'échelle d'une organisation ou d'un travail, ça peut être les blagues sexistes. Ça, c'est une structure de péché. Ça peut être le mensonge. Le mensonge, j'ai vécu ça dans une de mes vies précédentes, professionnelle, s'entend. Le mensonge, c'est une structure de péché. Dans une famille, on peut avoir des structures de péché aussi. Le bouc émissaire. C'est le bouc émissaire, qu'il soit dans la famille ou en dehors de la famille, c'est une structure de péché. On s'entraîne les uns les autres à ce type de péché. Le racisme peut être dans une famille une structure de péché. Voilà. Alors, comment ça marche une structure de péché ? Une structure de péché, ça fait 5 choses. Ça fait. D'abord, ça recrute. Donc, je vais prendre l'exemple, il vaut ce qu'il vaut, mais au moins il est parlant. Je vais prendre l'exemple des blagues sexistes dans un environnement de travail. Un nouveau qui rentre dans une entreprise ou dans une organisation où il y a ce type de péché qui est très répandu, le premier jour, il arrive, il rentre au self, il s'assoit et il entend 3 blagues sexistes. Et subrepticement, les gens regardent autour s'ils rigolent. Soit ils lui disent « Tiens, tu rigoles pas ?» Soit au contraire, il voit qu'il rigole et il l'encourage à lui-même raconter des blagues. Là, on est dans la structure de péché qui recrute. La deuxième chose que fait la structure de péché, je regarde mes notes, j'ai oublié, elle détruit le bien commun. Alors sur cette structure de péché, là, des blagues sexistes, c'est évident. Il y a les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Il n'est jamais question de faire progresser tout ça vers un bien ou vers un bien commun. Donc là, on a vraiment une structure de péché qui détruit le bien commun. La troisième chose que fait la structure de péché, c'est qu'elle banalise le comportement. Elle banalise ce péché pour faire croire que ce n'est pas un péché. Ah, tu te rends compte, dans cette entreprise, on travaille vraiment très dur. On a besoin de quelque chose pour souffler, pour relâcher la pression. Ben voilà, c'est blague sexiste. Mais bon, c'est pas méchant. Voilà. La structure de péché, elle banalise et elle fait croire que c'est pas un péché. La quatrième chose que fait la structure de péché, c'est qu'elle englue. Elle englue dans le péché. Une fois qu'on est rentré dedans, c'est difficile d'en sortir. Ah, l'autre jour, tu rigolais bien. Là, tu racontes plus rien. Ça va pas ? Voilà. Structure de péché, elle englue. Et la dernière chose que fait la structure de péché, c'est qu'elle punit les récalcitrants. Elle écarte et elle punit les récalcitrants. Quelqu'un qui ne rentre pas là-dedans va se faire traiter de prude, de sainte nitouche. On va dire qu'il n'est pas rigolo. Voilà. Donc ces cinq actions que font les structures de péché. Donc elle recrute, elle détruit le bien commun, elle banalise le comportement, elle englue, et elle punit les récalcitrants. À ce stade, je vais vous proposer de prendre 20 secondes pour que chacun, dans la salle, on puisse réfléchir à une structure de péché qu'on côtoie dans un environnement qui soit professionnel, familial, associatif, paroissial, voilà, dans une famille. On prend juste 20 secondes et puis on essaye de trouver le nom d'une de ces structures de péché qu'on voit autour de nous. Voilà, alors juste à titre d'info, est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez trouvé une structure de péché dans un environnement que vous côtoyez ? Allez, un petit tiers, très bien. Alors je vous invite, si vous avez trouvé une structure de péché dans un endroit que vous côtoyez, à bien penser à celle-là dans les quelques minutes qui vont suivre. Puis si vous n'avez pas trouvé, je vous invite à réfléchir sur une dont le pape François nous a déjà parlé dans Laudato Si, dont il nous reparle dans Fratelli Tutti, qui est l'amour immodéré de l'argent. C'est une structure de péché dont le pape François dit qu'elle existe un petit peu partout. Donc on ne parle pas du fait d'avoir de l'argent, mais l'amour immodéré de l'argent, quand on met l'argent devant Dieu, devant les autres. et que ça devient une structure de péché. Voilà. Donc le pape François nous dit que ça, c'est une structure de péché. Alors, je rappelle juste les 5 choses que fait la structure de péché. J'ai l'impression de me répéter, mais je pense que c'est important. Donc la structure de péché, elle recrute. Elle détruit le bien commun. Elle banalise le comportement. Elle fait croire que le péché n'est pas un péché. Elle englue et elle punit les récalcitrants. Voilà. La bonne nouvelle, et c'est une bonne nouvelle, c'est que l'Église nous donne une arme, ou nous présente une arme, contre les structures de péché. Et cette arme, c'est la solidarité. C'est le 5e principe de la doctrine sociale de l'Église. Je reprends mon exemple des blagues sexistes en entreprise. Est-ce que je suis capable, dans un environnement comme ça, de commencer par ne plus donner de nom propre à l'intérieur des blagues que je raconte, par charité envers les personnes dont on est en train de parler? Est-ce que je suis capable de faire ce petit effort, un petit effort pour l'autre? Est-ce que je suis capable d'arrêter de raconter des blagues? Est-ce que je suis capable d'arrêter de rigoler quand j'entends des blagues? Est-ce que je suis capable de réagir quand j'entends une blague qui parle de quelqu'un qui est au boulot? Est-ce que je suis capable d'aller recadrer un collègue en privé qui a dépassé les bornes? Est-ce que je suis capable d'aller recadrer un chef? Ouais, vous le voyez, hein, vous le comprenez. Dans cette structure de péché qui englue, on a un chemin de libération progressive à faire. Et ce chemin, il passe par des étapes de solidarité, par des actes de solidarité qui sont acceptés de mourir un peu à soi. Quand on fait ça, hein, quand on arrête de faire des blagues, quand on réagit, même quand on entend une blague qui n'est pas adaptée, on meurt un peu à soi, hein, on transforme son image. Est-ce que j'accepte de faire ces petits actes de solidarité qui vont loin, hein, quand on veut aller jusqu'à aller recadrer un chef là-dessus? Est-ce que je suis capable d'aller faire cet acte de mourir un peu à moi pour l'autre? Voilà. Là-dessus, voilà, on sent que ça commence tout simple et que ça va jusqu'à des actes, je vais utiliser un terme, héroïques. Et donc c'est bien à ça que petit à petit on est invité. Et ça nous montre à quel point on réussit, nous, à s'extraire de cette structure. Ce qui est très beau quand on commence à faire ça, j'ai d'autres exemples, ce qui est très beau quand on commence à faire ça, c'est que très, très rapidement, on a un retour. Donc très rapidement, on obtient la certitude qu'on est dans les bonnes actions et qu'on a raison de faire ça. Ça va être la réaction de quelqu'un, ça va être quelqu'un qui va d'un coup se remettre à respirer un peu alors qu'il était le bouc émissaire, ça va être quelque chose qui avant fonctionnait pas, qui va se mettre à fonctionner, ça va être quelqu'un qui va venir nous voir en nous disant tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc très vite on va avoir des petits signes, et puis on va avoir des petits signes que cette structure de péché, elle se délite. Qu'il y a certaines personnes qui arrêtent aussi de faire quelque chose, qu'il y a certaines personnes qui se remettent en cause, etc. C'est la solidarité qui délite cette structure de péché. Voilà. C'est pas complètement un hasard, hein. En faisant un petit acte qui est peut-être difficile pour moi, je mets un petit peu de lumière sur cette structure de péché. Et elle se délite. En acceptant de faire un acte complexe pour moi, je viens mettre une lumière particulière dans une situation, dans un contexte, ça nous permet à moi et aux autres autour de moi de sortir un petit peu de cet englument de la structure de péché. En mourant sur la croix et en ressuscitant, Jésus nous a sauvés du péché. On est vraiment dans la même chose, hein, vous comprenez. J'accepte de mourir un petit peu à moi, ça met de la lumière autour de moi, et ça nous permet à moi et aux autres de sortir du péché. En mourant sur la croix, Jésus ressuscite et il nous sauve du péché. C'est vraiment là, et là je vais terminer là-dessus, je crois que je n'aurai pas fait 45 minutes, mais ce n'est pas grave, on aura des questions. Le but de la doctrine sociale de l'Église. Le but de la doctrine sociale de l'Église, ce n'est pas de rajouter des principes, de rajouter des règles dans nos vies, et de nous rajouter des lois qui nous pèsent dessus et qu'on doit servir. Le but de la doctrine sociale de l'Église, c'est d'engager un chemin de sainteté. C'est de devenir enfant de lumière, pour reprendre ce terme du pèlerinage. Et ce chemin de sainteté, l'Église nous dit, la sainteté, c'est la foi, l'espérance et la charité. Quand je vois que ce petit acte de solidarité que je fais, il me permet de mourir un peu à moi-même pour faire jaillir un petit peu de la lumière de la résurrection nous permet à moi et aux personnes qui m'entourent de commencer à sortir un petit peu du péché. Quand je fais le lien avec Jésus qui est mort pour moi et ressuscité pour nous sauver du péché, je suis vraiment dans un moment où je découvre petit à petit la réalité concrète, aujourd'hui tangible et sensible, du fait que Jésus est mort, ressuscité et qui nous sauve. Donc je suis dans un moment où ma foi grandit. Ma foi dans ce que l'Église nous présente et ma foi en Jésus-Christ Sauveur grandit. Donc ces principes de la doctrine sociale de l'Église, petit à petit, ils nous permettent d'augmenter notre foi, de mieux comprendre Dieu et de mieux croire en Dieu. Ces actes aussi, et ça c'est le parcours et puis les expériences qui petit à petit nous le disent, mais quand on se rend compte que donner un peu d'argent, c'est une occasion de se sentir en paix avec ses possessions, c'est une occasion de se sentir en paix avec les dons de Dieu, et donc avec Dieu, que donner des responsabilités à nos enfants, petit à petit ça les fait grandir, et puis qu'on sent qu'on est vraiment dans notre rôle de parent quand on le fait. C'est vraiment super la famille, puisqu'on peut vraiment expérimenter de manière très, très forte tout ça, de manière beaucoup plus forte que ce qu'on peut faire à l'extérieur. Sentir tout ça, sentir que quand on fait ces actes, quand on essaye de vivre avec ces principes, dignité de la personne humaine, le bien commun, la destination universelle des biens, la subsidiarité, la solidarité, sentir que faire tout ça, ça nous rend heureux. Sentir que faire tout ça qui est relié à notre foi en Dieu, parce que Dieu nous a créés, il nous a voulu tous dignes, il nous a donné un travail sur terre, il est mort pour nous ressusciter. C'est l'occasion de sentir que être avec Dieu, là, est notre bonheur. C'est ça la définition de l'espérance pour les chrétiens. L'espérance pour les chrétiens, c'est pas de dire si je fais quelque chose, tout va bien se passer. Peut-être que ça va hyper mal se passer, que ma femme à qui je vais complimenter ma femme sur sa nouvelle coiffure, et puis ça peut mal finir. Ça peut très bien finir aussi, mais quelquefois, voilà. Ça veut pas dire que tout va bien se passer. Ça veut dire que là, dans ces actes que je pose, qu'on essaye de poser, là se trouve notre proximité à Dieu et là se trouve notre bonheur. Donc vivre tout ça, c'est se donner une occasion de grandir dans l'espérance. Et puis le troisième, donc foi, espérance, charité. Le troisième, c'est la charité. Là, je voudrais vous évoquer juste une petite anecdote moi, que j'ai vécue. J'étais dans une organisation où il y avait une structure de péché assez forte autour du mensonge. Mensonge, dissimulation, etc. Et je me retrouve un jour dans une réunion avec en face une organisation partenaire, peu importe. Et j'arrive à un moment de la réunion où tout le monde, dans mon organisation à moi, se serait attendu à ce que je cache quelque chose et que je mente pendant le reste de la réunion. Je me suis dit que ce n'était pas ce que j'avais envie de vivre à ce moment-là. Et du coup, j'ai lâché l'information. Et là, j'ai eu la confirmation dans la demi-seconde que j'avais fait la bonne chose. J'ai vu le visage de la personne en face de moi, donc qui était dans l'autre organisation, qui aurait dû être outrée, indignée, etc. J'ai vu le visage qui s'est transformé, et qui ne s'est pas transformé en indignation, qui s'est transformé en surprise. Tiens, il a réussi à sortir de ça. Ça a duré 3 secondes. La réunion a repris son bon cours, ça n'a pas été la réunion la plus facile de ma vie, et ça continue. Mais ces 2 secondes de surprise, c'est le moment où en fait j'ai présenté quelque chose autre. cette information qui m'avait été donnée, enfin que je connaissais, mais qui est un bien au sens où l'Église peut l'entendre, donc qui fait partie des choses que Dieu nous a données, j'avais envie de la partager comme moi j'avais pu la recevoir. Deux jours plus tard, quelqu'un qui était dans mon organisation à moi vient me voir, il dit « C'est vraiment surprenant ce que tu as fait. Je ne comprends pas pourquoi d'habitude on ne donne pas ce genre d'informations. » Bon, j'ai bredouillé un truc moyen sur « Ah bah oui, c'est vrai qu'on travaillerait quand même bien mieux si ce genre d'informations étaient partagées. » Mais j'ai un peu loupé l'exercice là qui se présentait à moi. Cette personne venait me voir en disant « Tu as fait quelque chose de surprenant, peux-tu m'expliquer ce qui t'a poussé à le faire ?» Ben oui, la raison pour laquelle je l'ai fait, c'est que tu vois, cette information, elle a pour vocation de servir quelque chose qui est plus grand que mon intérêt à moi, qui est plus grand que notre intérêt à nous. Elle a vocation, elle a une destination de servir quelque chose qui est commun entre nous et cette organisation partenaire. Elle a vocation à servir un bien commun que nous avons avec cette organisation partenaire. Et je crois que sur Terre, ce que j'ai envie de vivre, c'est quand je le peux, de chercher le bien commun. Et tu sais, pour moi, servir le bien commun, c'est parce que je crois en Dieu qui nous a créés, qui veut que nous continuions avec lui la création, parce qu'il nous aime. Il y a vraiment, dans tout ça, l'envie forte, la doctrine sociale de l'Église nous présente une manière d'aimer. C'est vraiment ça le but. La subsidiarité, dans l'absolu, c'est pas si important que ça. Le but de tout ça, c'est l'amour. Le but de tout ça, c'est de voir que, comme j'ai reçu énormément de Dieu, j'ai envie de retranscrire un peu de ça et de le redonner à mes frères. J'ai envie de leur présenter ce visage de Dieu. On peut ou on ne peut pas utiliser le mot de Dieu dans un contexte professionnel. Mais en tout cas, on peut montrer tout ce chemin d'amour qu'on a envie de vivre et qu'on a envie de partager. Voilà. Ça doit être tellement brûlant en nous qu'on doit avoir envie de partager ça, de partager cet amour de Dieu qu'il a eu pour nous, et de le partager avec nos frères par amour pour eux. Et voilà. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de même. Je vais commencer moi-même par deux, trois questions. La première, c'est qui est capable de citer au moins deux des principes de la doctrine sociale de l'Église ? Ah ben non, plus. Ok. Qui pense que c'est un bon outil pour les managers et les hommes politiques ? Ok. Qui pense que c'est un bon outil pour une mère de famille ? Ok. Qui pense que c'est un bon outil pour les prêtres ? Ok. Alors, j'ai besoin de vous, puis ensuite je laisse pas la parole aux questions. Pour la question particulière des prêtres. Les prêtres sont assez mal formés à la doctrine sociale de l'Église. Ils ont un petit morceau dans leur formation initiale au séminaire, qui souvent ne transmet pas ce feu, cette urgence que nous avons, nous, laïcs, d'être guidés sur ces chemins-là. Nous avons besoin, nous, laïcs, d'avoir des prêtres qui sont capables, en confession, quand on vient leur présenter des choses du travail, de nous donner de l'aide, un appui pour vivre et pour sortir du péché. Alors vous aurez juste après une conférence du frère Olivier de Saint-Martin et de Natalia Trouillet sur justement ce mystère de la miséricorde. Voilà, comment est-ce que le péché finalement est une occasion extraordinaire pour nous de revenir à Dieu, mais on a besoin d'aide de nos prêtres là-dessus. Aujourd'hui, ils sont très peu formés, Vous devez le constater qu'on ne vous parle jamais de subsidiarité, les prêtres ne vous parlent jamais ou quasiment jamais de subsidiarité, de bien commun, etc. Ma demande, c'est que chacun dans cette salle, vous puissiez réfléchir à un prêtre proche de votre entourage qui ne vous a jamais parlé de doctrine sociale de l'Église et que vous fassiez un geste envers lui. Ça peut être, je crois que cette conférence va être mise en ligne sur YouTube, ça peut être de l'envoyer vers cette conférence, ça peut être de lui donner le compendium de la doctrine sociale de l'Église, qui est ce que l'Église, voilà, un résumé de la doctrine sociale de l'Église juste avant Laudato Si. Ça peut être de lui donner mon livre, Vivant chrétien Késako. Ça peut être de lui parler de ça, de lui parler des cinq principes, ça peut être de commencer à avoir des discussions avec eux. Je crois qu'on a vraiment besoin, nous laïcs, de prendre une place sur ce sujet. On a besoin de prendre une place, ça peut être encore de monter un parcours zaché. On a besoin de prendre une place parce qu'aujourd'hui, les prêtres ne se sentent pas légitimes à parler de ça. Parce qu'ils se disent, le travail, moi, etc. La subsidiarité entre un prêtre et ses vicaires, c'est très concret. Hein. Les vicaires, il faut qu'ils aient les coudées franches pour pouvoir faire telle et telle chose. Donc c'est vraiment des choses qui, pourtant, devraient toucher les prêtres. Voilà. Une petite demande de ma part, c'est voilà, si vous avez l'occasion d'aller faire un petit geste envers un prêtre proche de vous, il sera heureux.
Merci pour cette... Merci pour cette initiation qui nous donne aussi envie d'aller la lire, cette doctrine sociale de l'Église. Et peut-être, si on ne veut pas directement rentrer dans le texte, aller lire votre livre qui nous initiera aussi. Alors, on va faire un petit tour dans la salle. Si vous avez des questions, voilà.
Allô. Oui, je voudrais avoir votre position par rapport à la doctrine du péché, par rapport au grand patron. Vous, je crois que vous travaillez, vous êtes manager, vous parlez de belles choses, mais on sait que d'organisations, alors je ne sais pas lesquelles, dans la réalité, si on veut faire avancer les choses, pour certains, on sait que parfois comment il faut s'y prendre ou pas s'y prendre, c'est pas évident, mais les cinq doctrines du péché vont tout à fait bien aux grands patrons. Au moins là je vais prendre les patrons du 440, je ne dis pas que c'est la même chose des fois pour la petite entreprise, le boulanger ou autre, mais je voudrais bien savoir vous, comment vous, en tant que chrétien, comment vous arrivez à accepter façon de parler, mais comment vous réagissez, quoi.
Très bien, merci pour cette question. Je crois que c'est une question très importante et qui est parfois, c'est un sujet qui est parfois à l'origine de compréhensions mauvaises sur ce qu'est la doctrine sociale de l'Église. On peut avoir deux manières de lire la doctrine sociale de l'Église qui ne seraient pas très justes ni l'une ni l'autre. La première, c'est de dire... je suis très à l'aise dans ma foi, je vais à la messe tous les dimanches, je me confesse régulièrement, j'ai une relation très forte avec Dieu. Et par contre, j'ai vraiment du mal avec ce monde pourri, vous m'excuserez le mot, parce que je vois des choses vraiment très graves et du coup ça me gêne. J'ai un ami sur Facebook qui dit des choses bien sur l'euthanasie, du coup je vais l'enlever de mes amis. J'entends tous les 6 mois raconter que ma banque a une nouvelle casserole financière, qu'elle traîne une nouvelle casserole financière derrière elle. Je vais retirer tout mon argent et puis je vais aller vivre à la campagne avec des chèvres. Voilà, ce genre de, finalement, une lecture qui nous ferait démissionner du monde réel. Et puis il y a une deuxième lecture qui ne colle pas non plus, qui serait de dire moi je suis très à l'aise dans ma vie réelle, vraiment je suis intégré dans le monde, je fais plein de choses, j'ai plein de relations, Par contre, la doctrine qu'on nous présente, c'est très gentil, mais c'est pas comme ça que ça marche. Il y a des gens qui respectent pas le principe de dignité. Parlons des migrants. Les migrants, l'Église nous propose l'accueil inconditionnel des migrants. Qu'est-ce qui se passerait si on accueillait tous les migrants demain matin? Ça marche pas, votre truc. Voilà. Donc, je crois qu'on peut avoir ces deux méthodes de lecture qui sont pas complètement bien ajustées, qui est soit monde pourri, je veux pas vivre avec toi, soit la doctrine sociale de l'Église, très bien dans vos idéaux, mais en vrai ça marche pas. En fait, c'est très important sur ce sujet-là de bien comprendre que la doctrine sociale de l'Église n'est pas un programme politique. Voilà. Donc souvent on a l'impression que la doctrine sociale de l'Église c'est le programme politique de l'Église. En fait non, la doctrine sociale de l'Église c'est l'horizon. L'Église nous montre le nord. Elle nous montre le nord magnétique, elle nous montre là où il faut aller, elle nous montre le but, elle nous montre le royaume de Dieu sur terre. Alors forcément, ce n'est pas crédible, parce qu'aujourd'hui, on voit bien tout ce chemin qui nous sépare de l'horizon. À l'inverse, quand je regarde sous mes pieds, je vois de la terre avec de la boue, etc. Et on a l'impression qu'il n'y a aucun rapport entre l'horizon qui m'est montré et puis la terre qui est sous mes pieds, qui est toute boueuse. En fait, il faut bien comprendre que c'est la même chose. C'est la même chose, sauf qu'on a un chemin à faire jusque-là, que le chemin, il n'est pas facile. Il n'est pas facile, effectivement. On est dans des entreprises où parfois il y a des décisions qui sont prises avec un seul objectif en tête, le profit. Ce n'est pas la dignité de la personne humaine, le bien commun, etc. Ça, ça vaut dans des petites et des grandes entreprises. Hein. Je ne fais pas forcément de grand écart entre les deux. Donc on est dans une situation qui est réelle, qui est celle dans laquelle on vit, qui est celle du chrétien posé sur terre, qui est celle où Adam a été mis. Il a été mis les pieds dans la boue. Et puis on a l'Église qui nous dit l'horizon il est là-bas. Il y a un chemin à tracer entre les deux, et ça c'est des programmes politiques. Donc il y a un programme qui va passer plus à droite, plus à gauche, ça nous parle en termes politiques. Et nous, il faut qu'on navigue avec ces programmes, que quelquefois on choisit plus ou moins, pour voir ce que nous pouvons faire comme pas, chacun individuellement. C'est jamais une structure qui fait un péché, c'est toujours un homme. Donc quand on est dans des situations, c'est nous qui choisissons de faire un péché ou de ne pas faire un péché. Je crois que vous me demandez comment je reçois ce sujet finalement d'être les pieds dans la boue. Je le reçois, que je sais où est l'horizon, je crois que je sais où est l'horizon, je crois que je sais où je veux aller, et j'essaye que mes pas ils aillent dans la bonne direction. Et je crois que c'est vraiment à ça qu'on est invité. Même le sujet de la migration, alors il est très frictionnel parmi les chrétiens, parce qu'on a l'impression que l'Église nous dit il faut tout ouvrir tout de suite. Non, l'Église ne nous dit pas il faut tout ouvrir tout de suite. L'Église nous dit dans le royaume des cieux, sur terre, il n'y a pas de barbelés aux frontières. Fermez les yeux, imaginez-vous le royaume de Dieu sur terre, et imaginez-vous de trouver des barbelés à une frontière. On sent bien que ça ne colle pas. Donc l'Église nous dit, au bout du chemin, il n'y a plus de barbelés. Elle ne nous dit pas, il faut enlever tous les barbelés tout de suite. Ce serait très compliqué. Elle ne nous dit pas, il faut arrêter toute la spéculation financière demain matin. Si on le fait, ce sera aussi très compliqué. Par contre, quels sont les pas que moi je peux faire à titre individuel, perso? Juste moi, mon argent, je le mets à la banque, je le mets sur tel et tel support, si j'ai la chance de pouvoir avoir un peu de support financier. Est-ce que je sais ce qu'il y a derrière? Est-ce que j'accepte que dedans il y ait des armes, du tabac, etc. ou pas? Quels sont les petits pas que je peux faire? Et puis quand je suis dans une entreprise, je prends des décisions pour le compte de l'entreprise. Ça, c'est vraiment la destination universelle des biens. En fait, quand je suis dans une entreprise, je suis gestionnaire de biens qui ne sont pas les miens. Quels sont les décisions que je suis capable de prendre, y compris au sein d'une entreprise, pour aller vers cet horizon. Donc oui, il y a de la boue sous nos pieds. Oui, l'horizon qui nous est présenté par l'Église, il est vraiment très loin. Par contre, il y a un chemin, et c'est notre rôle de nous laïcs et nous hommes et femmes dans la cité. Est-ce qu'il y a une autre question?
Moi, j'en aurais une alors. Comment est-ce qu'on peut parler de la doctrine sociale de l'Église à un collègue qui n'est pas croyant, qui est loin de l'Église et qui n'est pas attaché à l'Église? sans forcément parler de Dieu tout de suite. Tout à l'heure, vous avez parlé de la destination, mais voilà, comment est-ce qu'on aborde ce sujet dans un milieu laïque ?
Je crois justement que c'est la grande force de la doctrine sociale de l'Église, c'est qu'on peut l'aborder tout de suite. La théologie mariale avec les collègues, c'est plus difficile à aborder. Par contre, dire à nos collègues, moi il y a quelque chose qui est vraiment important pour moi, c'est la dignité de la personne humaine. Enfin, je veux dire, personne ne va vous dire, oh là là, tu es en train de rentrer dans le dialogue religieux. Et pire que ça, ils vont vous expliquer qu'eux aussi, c'est leur valeur. Moi, le bien commun, c'est important pour moi. Tout le monde est d'accord. Destination universelle des biens, ah, ça devient compliqué. Destination universelle des biens, ça devient compliqué. Mais quand même, dans une entreprise ou dans une administration, quand on voit l'argent qui est jeté par la fenêtre, ça énerve tout le monde. Ou l'argent que quelqu'un s'approprie pour faire juste ce qu'il veut, mais qui n'est jamais collaboratif avec les autres, ça énerve tout le monde aussi. Donc ok, ça va être compliqué d'aller jusqu'au bout de, en fait, on ne possède pas notre argent, mais on en est gestionnaire en vue du bien commun. Ça va être dur. Par contre, commencer à dire, mais bon, l'argent, ok, mais c'est bien l'argent, mais est-ce que c'est vraiment le seul but de l'entreprise ? Est-ce que le but de l'entreprise, ce ne serait pas plutôt d'aller vers le bien commun, d'aller vers quelque chose, vers un apport à la société ? Je crois que vos collègues, ils seront d'accord aussi. La subsidiarité, c'est des choses que plein d'entreprises essayent de mettre en place. Nous, on a ça, je suis dans une entreprise industrielle, on essaye de laisser de l'autonomie aux personnes, y compris sur les chaînes de production, pour qu'ils puissent faire telle et telle chose. C'est quelque chose dont toutes les entreprises veulent implicitement, même si parfois la réalité n'est pas suffisamment là derrière ou derrière les mots. Mais avoir chacun qui est impliqué dans l'entreprise, tout le monde en a envie. Et la solidarité, les premiers défenseurs de la solidarité, ça va être les syndicats. Syndicats, c'est leur rôle. Hein. Syndicats, c'est de se mettre, c'est de mettre leur trip sur la table pour protéger les collègues. Donc on est vraiment, ces cinq principes, c'est hyper facile de les aborder sans prononcer le mot de Dieu. Et je crois que c'est une occasion d'évangélisation qui est extraordinaire. Parce qu'on commence en parlant de ça, puis petit à petit, il y a des gens qui nous disent « Ah tiens, pourquoi est-ce que tu n'as pas menti à cette réunion ?» Et quand on sent que le cœur est prêt, on peut aller plus loin. Voilà. Je crois que c'est la grande force de cette doctrine sociale de l'Église. C'est pour ça que sur le livre, là, je mets en couverture, bon alors c'est loin, vous ne verrez pas tous, mais je mets en couverture une échelle qui est l'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob qui relie la terre et le ciel. Je crois que c'est vraiment ça la manière dont il faut comprendre la doctrine sociale de l'Église. C'est d'abord très terrestre. Et je crois que chacun d'entre nous, on peut avoir ces discussions avec nos collègues, avec des enfants, des petits-enfants, qui parfois sont un peu plus éloignés de la foi que ce qu'on a pu être, avec des amis, etc. Et puis petit à petit, faire naître le désir de plus, leur dire, mais en fait, bon, ça que tu as l'air de partager, ben, en fait, enfin, pour moi, c'est pour moi, on est au premier échelon d'une échelle qu'en contient 300. Moi, je te propose quelque chose qui est plus loin que ça.
Alors, hélas, c'est l'heure. Il va falloir vous libérer. Mais merci pour cette initiation et pour les petits pas que vous nous invitez à faire.
Merci à tous et je vais signer le livre pour ceux qui voudront éventuellement partir avec un livre. Ils sont à la librairie et au chalet, je serai à côté pour signer.